L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
À la suite de la motion de censure votée contre le gouvernement de Michel Barnier le 4 décembre dernier, Emmanuel Macron a nommé François Bayrou Premier ministre après consultation des différents partis, excepté le Rassemblement national et la France insoumise. Les deux partis sont régulièrement mis dos à dos comme l'extrême droite et l'extrême gauche par différentes personnalités politiques, y compris par Emmanuel Macron lui-même. Pourtant, autant le RN n'a pas été convié par le président de la République lors de ses consultations pour conclure un accord de non-censure du prochain gouvernement, autant la France insoumise a simplement refusé cette invitation. Jean-Luc Mélenchon, figure de proue de la France insoumise, a en effet déclaré que tout compromis avec le camp présidentiel constituerait une trahison. Alors, comment LFI compte composer avec ce nouveau gouvernement et avec cette assemblée toujours divisée et avec un nouveau Front populaire qui souffre de désaccords sur la question? Bonjour Maël Boyan.
Bonjour Charlie, merci de votre invitation.
Vous êtes le porte-parole de LFI en Sarthe. Alors pour commencer, il nous faudrait aborder d'abord une actualité régionale puisque l'actualité des Pays de la Loire a retenti jusque dans les médias nationaux. Demain matin, jeudi 19 décembre, est prévue une séance plénière du Conseil régional durant laquelle doit être voté le budget de la région pour 2025. Alors, Christelle Morancet a prévu 100 millions d'euros d'économies, dont 73% de réduction du budget alloué à la commission 7. Cela se traduit par des suppressions de subventions dans le domaine de la culture, de la vie associative, du sport, de la mission égalité hommes-femmes, de la solidarité. D'autres structures comme les missions locales, sont elles aussi touchées. La France insoumise et les autres forces d'opposition représentent 36 sièges sur les 93 du Conseil régional. Alors, quel va être votre mode d'action demain matin ?
Alors, déjà en introduction, juste si vous me permettez, une pensée pour nos compatriotes maorais qui vivent une catastrophe sans précédent. Et juste si je peux humblement inviter les auditeurs à se tourner vers la Fondation de France ou vers le Secours Populaire pour pouvoir faire des dons. Là-bas, on manque de tout, donc on a besoin d'absolument tout et toute aide sera utile. Voilà, maintenant pour répondre à votre question sur les coupes budgétaires qui ont été annoncées par Christelle Morancet d'une façon brutale, absolument unilatérale, ce qui n'est pas sans rappeler les méthodes macronistes que l'on peut observer à l'Assemblée. Sur le mode d'action, à partir de demain matin, les acteurs de la culture, les acteurs du monde associatif, sportif, culturel, se rassembleront à l'ouverture de la séance plénière. Bien entendu, les conseillers régionaux d'opposition du groupe L'écologie ensemble, dont Arash Saïdi, Mathias Tavel et William Aucan, les conseillers régionaux de la France Insoumise, seront mobilisés aux côtés des acteurs qui seront durement touchés par ce budget, vous avez dit budget, ce budget d'austérité qui sera imposé probablement à partir de demain par la majorité régionale.
Alors face à l'abandon de la région, le monde associatif des Pays de la Loire doit se tourner vers d'autres financements. Peut-être l'État viendra-t-il à leur secours. Cependant, on entend beaucoup d'associations préciser que ce n'est pas seulement au niveau de la région que les aides baissent. On a aussi quelque chose au niveau des départements et au niveau de l'État. Oui. Alors la politique du nouveau Premier ministre François Bayrou reste encore cependant assez floue. Oui. Élise Le Boucher, cependant, la députée France Insoumise de la 4e circonscription de la Sarthe, se montre assez pessimiste. Elle déplore un choix à côté de la plaque de la part du président de la République. C'est votre avis également ?
Ah bah oui, tout à fait. Vous savez, sur la situation régionale comme sur la situation nationale, qui sont d'ailleurs tout à fait liées, c'est un secret pour personne. Christelle Morancet a rejoint le camp Horizon il y a un an de ça. Elle est maintenant vice-présidente du parti d'Édouard Philippe, Horizon, et Horizon soutient la politique de casse budgétaire qui était déjà initiée par Macron en son temps, puis par Barnier il y a quelques mois, et qui sera poursuivie par Bayrou. Et si vous voulez, nous, à la France Insoumise, on n'a pas voté la censure pour se débarrasser de Barnier et de son budget délétère pour aller soutenir Bayrou. Comprenez bien que ce serait absolument pas logique. C'est-à-dire que Barnier était issu du groupe d'opposition théorique, les Républicains, qui comptait 47 têtes. Aujourd'hui, le Premier ministre que l'on a est le bras droit d'Emmanuel Macron, issu d'un groupe parlementaire qui ne compte que 36 têtes à l'Assemblée. Juste pour rappel, le nouveau Front populaire compte 194 députés.
Alors oui, mais tout de même, on part donc d'un Premier ministre LR, Michel Barnier, et on se déplace plutôt vers le MoDem, donc à partir du centre. Est-ce que ce n'est pas l'idéal pour assembler l'ensemble de l'hémicycle, à droite comme à gauche?
Non, on se déplace vers le macronisme. C'est précisément ça. C'est-à-dire qu'il y a une situation quand même assez cocasse dans laquelle il faut qu'on réussisse à se repositionner, je pense, en tant que citoyen. C'est-à-dire qu'on a un président, Emmanuel Macron, qui a perdu 3 fois les élections électorales intermédiaires. Il n'en a pas tiré le bilan. n'en a pas tiré le bilan. Là, il cherche à se remettre au centre du jeu. Mais le macronisme s'est terminé. Néanmoins, Bayrou est allé se nommer lui-même le matin à l'Élysée.
Le macronisme s'est terminé, ça reste quand même une part importante de l'Assemblée nationale, le macronisme aujourd'hui.
Aujourd'hui, ça reste 90 sièges. Encore une fois, le nouveau Front populaire, c'est 190 sièges. La logique institutionnelle aurait voulu que Lucie Castet soit nommée à Matignon. C'est ça, la logique institutionnelle, que l'on soit partisan, que l'on fasse la campagne des uns ou des autres, ou que l'on soit constitutionnaliste.
Mais vous ne croyez pas qu'elle se serait fait censurer immédiatement par les macronistes et par le Rassemblement national?
Mais alors pourquoi est-ce que ces derniers nous imposeraient un Bayrou qui devrait normalement composer projet par projet avec nous?
Ça, et bah peut-être parce que c'est une figure qui peut rassembler à gauche comme à droite.
Eh bien ça, on le verra, mais moi je ne crois pas qu'il soit en capacité de pouvoir faire un tel grand écart entre Retailleau d'un côté et Olivier Faure de l'autre. Ça, moi je n'y crois pas une seconde. C'est-à-dire que sur quelle base programmatique est-ce que ce gouvernement va se stabiliser? Est-ce qu'on aura Retailleau, puisque aujourd'hui on voit que les Républicains montent les enchères, est-ce qu'on aura un Retailleau qui défendra un nouveau pacte asile-immigration? Qui sera encore plus dur, encore plus rude, à l'image des dernières sorties qu'il a pu avoir sur la crise que rencontrent les Maoris aujourd'hui? Est-ce que ce gouvernement-là nous proposera en contrepartie de revenir sur l'abrogation de la réforme des retraites? J'y crois pas une seconde. On va pas se faire avoir par un gouvernement d'extrême centre qui ralliera en même temps des figures de la future extrême droite qui se recomposera pour 2027 au prix d'une conférence sociale et salariale.
En tout cas, la France Insoumise a déjà annoncé voter la censure du gouvernement Bayrou, alors même que ce gouvernement n'est pas encore formé. C'est un désaccord que vous avez avec les autres partis du Nouveau Front Populaire, Parti Socialiste en tête, qui, eux, s'ils ne comptent pas participer au gouvernement, n'envisagent pas non plus de le censurer immédiatement. Alors, est-ce que la France Insoumise revendique cette radicalité par rapport aux autres forces de gauche?
C'est pas nécessairement une radicalité, c'est simplement le fait de respecter aussi les institutions et les citoyens. En fait, on ne fait pas n'importe quoi avec la démocratie. À un moment, lorsque une chambre se stabilise avec un groupe majoritaire, il est logique que ce soit ce groupe majoritaire qui soit appelé aux affaires.
C'est quand même une majorité relative.
Oui, bien entendu, mais cette majorité relative vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que jusqu'ici, le macronisme, du moins depuis 2022, était aussi en majorité relative. Regardez le socle commun qui finalement n'a rien de commun, s'est retrouvé à...
Oui, ça reste le président de la République qui nomme le Premier ministre.
Ah bah, tout à fait, mais ça qui est un problème constitutionnel en vertu de l'article 8, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, on pourrait en discuter très longuement. De toute façon, nous sommes pour la 6ème République et nous départir de la 5ème République et des entraves parlementaires qu'elle contient, notamment cette article 8 qui donne le pouvoir de nomination au président. Ça, c'est effectivement un problème. Dans n'importe quelle démocratie européenne aujourd'hui, entendez-moi bien, c'est le groupe parlementaire qui est arrivé en tête qui a la charge de composer et de présenter un gouvernement. C'est comme ça que devrait se passer normalement dans un monde démocratique, dans une vie démocratique française assez logique, dans un régime parlementaire, comme nous l'appelons au sein de la France Insoumise, que les choses auraient dû se dérouler.
Mais alors, assumer ce désaccord.
Oui, on assume ce désaccord, de toute façon.
Mais c'est pas un risque quand même de fragiliser le nouveau Front Populaire, ensuite de devenir effectivement les fauteurs de troubles, les artisans du chaos, comme vous êtes régulièrement présenté par vos adversaires politiques.
Oui, bien sûr, de toute façon, cette petite chanson du chaos, des semeurs de troubles, du bruit de la fureur, si vous voulez, ça fait à peu près 10 ans qu'on l'entend, donc à un moment, on finit par avoir le cœur tanné au regard de ces critiques. Moi, ce que je vois surtout, c'est que le chaos, il est maintenu et entretenu par Emmanuel Macron. Et après, sur la singularité de chaque parti ou de chaque tendance à l'intérieur du nouveau Front Populaire, moi elle ne me choque pas qu'il y ait un logiciel social-démocrate qui revendique une culture du compromis, qui souhaite tenter sa chance à travers ce compromis, mais qu'elle l'essaie. Moi, je n'y vois absolument pas de problème a priori.
C'est pas un motif de rupture.
C'est absolument pas un motif de rupture. En tout état de cause, on voit bien qu'ils ont été reçus, enfin, pour Olivier Faure et pour Marine Tondelier, ils ont été reçus à l'Élysée en sortie avec la même conclusion. Emmanuel Macron est toujours dans le déni et n'a toujours pas compris l'enseignement des dernières élections.
Oui, mais alors, quand même, les Français, tout du moins vos électeurs, est-ce qu'ils voulaient cette censure du gouvernement Barnier? Est-ce qu'ils voulaient le censurer à ce moment précis qui impliquait de reconduire en 2025 le budget pour 2024? Quel retour vous avez sur ce terrain?
Bah, si vous voulez, déjà, rappelons que Barnier est tombé sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Projet de loi de finances de la Sécurité sociale, que l'on pensait déjà être le plus austère de l'histoire en 2023, lorsqu'il nous a été présenté, hein, pour 2024. On voit que le projet de loi de finances sécurité sociale pour 2025 était encore plus austéritaire avec 3 milliards de coupes sur la santé. Un projet de loi de finances qui devait arriver avec 4000 enseignants en moins, alors même que des établissements ferment et qu'on manque de profs chaque été, qu'on voit bien les espèces de speed dating se développer. Enfin, ça, si vous voulez, c'est absolument pas sérieux, quoi. Enfin,
mais de toute façon, ce
budget n'était pas bon.
Il y a quand même une tribune aujourd'hui qui est sortie le 17 décembre, oui, qui a été signée par 3 organisations patronales et 4 syndicats représentatifs sur 5 qui ont signé ce communiqué et qui appellent les responsables politiques à prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire à aller vers la stabilité.
Oui. Alors, vous pouvez me rappeler le nom des syndicats représentatifs ?
Alors, oui, tout à fait. Il y a donc la CPME, oui, l'UDP, oui, la CFDT, le FO, la CFTC et CFE-CGC et le MEDEF aussi.
Voilà.
Seule la CGT n'a pas signé.
Voilà. Voilà. Mais parce que, de même façon, en fait, au sein de l'intersyndicale patronale ou l'intersyndicale qui est représentative des salariés, vous avez aussi une discussion sur les méthodes et sur les stratégies à adopter. Moi, ce que je vois, c'est que la censure a quand même permis que des retraités ne voient pas leur retraite désindexée. Les retraités aujourd'hui, et c'est une victoire de la censure, plutôt que de voir leur pension de retraite dévalorisée à 0,8% comme Barnier leur proposait, elles se retrouvent revalorisées à 2,2%. Et ça, c'est une victoire. C'est un gain en matière de pouvoir d'achat. Et à un moment, il ne faut pas bouder en fait ce que l'on peut prendre.
Alors justement, parlons du pouvoir d'achat. Les fameux amendements de la loi spéciale de reconduction du budget 2024 en 2025.
Oui.
Donc cette loi votée lundi 16 à l'Assemblée. Ces amendements qui devaient empêcher les Français de payer le prix de cette censure en indexant le barème de l'impôt sur, oui, le revenu de l'inflation. Mm-hmm. Ces amendements ont été déclarés recevables dans un premier temps par Éric Coquerel, président et l'élu de la Commission des Finances.
Voilà.
Mais la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, les a finalement déclarés irrecevables en se rangeant à l'avis du Conseil d'État.
Voilà.
Alors ainsi, ce sont près de 400 000 nouveaux foyers peut-être imposables pour 2025. Est-ce que ce n'est pas là une erreur de la part des censeurs qui pensaient qu'il n'y aurait pas eu ce coup des Français de cette décision de la censure?
Non, mais c'est bien que vous reveniez sur ce processus, parce que très clairement, ça montre la volonté politique des macronistes que de faire payer les Français. De faire payer les Français, toujours. En tentant de nous faire porter le mistigris, justement, des hausses d'impôts.
C'est le Conseil d'État, quand même, qui a décidé que ces
amendements étaient irrecevables. Le Conseil d'État est un conseil. Il rend des avis. Il n'est pas juriste. En tout cas, pas en la matière. Celui qui fait la loi, ce n'est pas le Conseil d'État. Celui qui fait la loi, c'est le corps législatif. Ce sont les parlementaires. Le président de la Commission des Finances est tout à fait la personne indiquée, pour pouvoir déterminer si un article doit tomber au titre de l'article 40 ou non. Et des amendements ou des articles jugés irrecevables, vous inquiétez pas qu'Éric Coquerel, il n'a pas la main qui tremble, même lorsqu'il s'agit d'amendements ou d'articles qui viennent de notre côté. En ça, il est un président de la Commission des Finances tout à fait républicain et respectueux des institutions. Éric Coquerel, en tant que président, donc étant fondé pour pouvoir déterminer que ces amendements pouvaient être discutés dans le cadre du projet de loi spéciale, a été défait par Yaël Braun-Pivet en tant que présidente macroniste de l'Assemblée nationale. Alors qu'il n'y a pas de jurisprudence. Il n'y a pas de jurisprudence en la matière. Il aurait été tout à fait possible pour le législateur de se positionner sur ces articles. Vraiment. Et nous, on le revendique. C'est comme ça, factuellement, en matière de fonctionnement institutionnel. Encore une fois, dans le respect des institutions, il aurait été possible d'examiner justement cette revalorisation du barème. Maintenant, ce n'est pas perdu, parce que vous savez que certainement que l'année fiscale débute en mai. Donc, d'ici mai, il y aura probablement, on peut l'espérer, un projet de loi de finances rectificative qui nous permettra au moins d'avancer sur la réindexation des barèmes d'imposition.
Alors, vous avez exprimé votre crainte, c'est que François Bayrou continue la politique d'Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron n'aurait pas nommé un Premier ministre du NFP. Par deux fois, il en a eu l'occasion. Par deux fois, il ne l'a pas fait.
Oui.
Cependant, François Bayrou semblait ouvert à l'idée d'accueillir tout le monde dans son gouvernement. Mmh. Alors, pourquoi non seulement la France insoumise, mais le NFP tout entier, décide-t-il de n'y pas participer, quoique Olivier Faure, secrétaire du Parti Socialiste, ait dans un premier temps esquissé un pas dans cette direction? Parce que vous supposez que ce nouveau gouvernement n'opérera aucune rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que c'est pas évident s'il ne se constitue qu'avec des membres de la coalition présidentielle et de la droite? Une participation du NFP au gouvernement ne permettrait-elle pas, justement, de premier pas vers un changement de cap?
Non, je crois pas, parce que de fait, des consultations et des rounds de consultations ont eu lieu, vous imaginez bien, entre les différents partis et puis le chef du gouvernement, François Bayrou. De fait, sur tous les éléments qui ont été apportés par le nouveau Front populaire, 10 points en particulier, ça a été non sur l'ensemble. François Bayrou est là pour protéger l'héritage d'Emmanuel Macron et protéger les politiques délétères qui ont été conduites par lui. Donc nous, si vous voulez, il y a pas de problème, on en prend acte. On en prend acte en se plaçant dans l'opposition, et je pense que même dans le moment démocratique que l'on vit, qui peut être agité, c'est bien qu'il y ait une opposition, c'est bien qu'il y ait une opposition qui puisse travailler sur des contre-budgets, qui puisse travailler sur des programmes politiques, qui puisse répondre justement à l'austérité qui va rampante quand même, hein. 13 millions de pauvres en France aujourd'hui, voilà. C'est quelques millions de plus que la période pré-2017, hein, faut le rappeler. Donc c'est important d'avoir une opposition qui soit vitalisée pour pouvoir répondre justement et construire de la production politique et des solutions politiques à destination des citoyens et des citoyennes.
Mais alors quel est l'objectif en fait dans le court terme là ? C'est une nouvelle motion de censure, c'est de pousser Macron en fait à l'immobilisme et finalement à la démission peut-être ?
Oui.
C'est clairement votre objectif.
Ah bah oui.
Et est-ce que c'est, est-ce
dis,
que
le
c'est
chaos,
pas...
il est entretenu par Emmanuel Macron. Enfin, celui qui ne reconnaît pas sa défaite dans les urnes, c'est Emmanuel Macron. Celui qui refuse de reconnaître la victoire du nouveau Front populaire, même si ce n'était que pour gouverner une journée dans ce pays, c'est Emmanuel Macron. Celui qui impose au forceps des premiers ministres qui sont là justement pour protéger le butin, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui a les clés. Je pense que c'est d'autant plus clair pour un grand nombre de personnes, y compris dans son propre camp.
On entend bien ce que vous dites, mais précipiter des élections présidentielles.
Oui, permettra d'éclaircir le champ. Oui,
je suis d'accord. Est-ce que c'est pas quand même offrir une opportunité au Rassemblement National qui est aujourd'hui plus fort que jamais, tandis que le NFP, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelques désaccords, même si on n'est pas sur de la rupture, il y a quand même quelques désaccords et surtout toute la gauche n'est pas intégrée dans le NFP. Il pourrait y avoir plusieurs candidats de gauche alors qu'il n'y aurait qu'un seul candidat Rassemblement National. Est-ce que ça n'est pas dangereux ?
Oui, bien entendu. Ce que démontrent les élections 2022 tout de même, c'est le fait qu'à un moment, les électeurs de gauche sont retrouvés sur le programme de l'Avenir en Commun. Jean-Luc Mélenchon a fait 22%, la candidate socialiste a fait 1,7%, pour rappel. Voilà. Ça a dessiné une géographie politique de gauche.
C'était il y a quelques années quand même.
2022, c'est pas si vieux.
C'est pas si vieux, mais il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans.
Oui, il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans, mais il se passe toujours beaucoup de choses. Et en réalité, on voit qu'il y a une forme de, permanence dans la marche longue. En tout état de cause, moi, je vois qu'un grand nombre de citoyens et citoyennes en 2022 se sont positionnés pour un programme de rupture à gauche. Je pense que le programme de rupture, l'Avenir en Commun, a conduit à la plateforme programmatique de la NUPES, a conduit ensuite à la plateforme programmatique du Nouveau Front Populaire. Et je pense que aujourd'hui, ce programme du nouveau Front populaire, s'il était appliqué dans son intégralité, serait bon pour les Français et les Françaises. Voilà. Donc, de fait, c'est pas tant la question de la candidature.
Vous ne prenez pas en compte l'image de LFI qui a beaucoup souffert quand même, notamment depuis les attentats du 7 octobre 2023.
Oui, bien entendu. En toute honnêteté, en toute franchise, moi je l'ai à l'esprit. Le combat que l'on conduit, c'est le combat pour le programme, pour qu'un programme de gauche puisse être appliqué dans ce pays. C'est ça le combat pour lequel nous on se mobilise. Voilà. Moi je vais pas jouer à qui du chat ou de la souris doit se présenter pour des élections présidentielles anticipées ou pour les élections de 2027. Moi je veux simplement, en tant que militant La France Insoumise, que le programme du Nouveau Front Populaire, que le programme de l'Avenir en Commun puisse être appliqué. Et pour ça j'espère que effectivement toutes les avant-gardes de nos partis seront à un moment établir une forme de consensus autour d'une candidature commune.
Je vous remercie, Maëlle Briand, porte-parole de la France Insoumise en Sarthe. Et à bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup.
Merci.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.